Attends, en fait, je vous présenterai pas plus longuement si ce n'est en disant que.
Ah, mais t'as rien dit encore.
Vous vivez. Vous vivez encore dans le cœur de nombreux talas et les autres vous connaissent par tradition.
Ah, bah très bien. Bah là, je connais plus personne quasiment. Ça.
Emmanuel.
Guillaume Debin, hein.
Guillaume et Demi-Ci.
Guillaume et Demi-Ci. Ah,
oui. Félicitations d'ailleurs. Ce beau sacrement du mariage. Non, je crois. Hein. Très bien, très bien. Attends, tu dis rien, t'es vraiment, tu dis rien du tout. Ah bah non, bah bon. Bah merci Marguerite de ces mots forts. Tu as su poser des mots. Voilà, vous m'avez demandé, donc je crois dans le cadre d'un cycle sur les psaumes, de vous parler de la théologie des psaumes. Je crois que c'est ça. Hein, le... Bon, j'ai dit oui, plus par faiblesse que par bonté, mais... Moi, j'y connais pas vraiment grand-chose, et puis c'est un sujet quand même, enfin, c'est la théologie des psaumes, c'est un peu comme Dieu dans la Bible, quoi. Il y a presque trop de matière pour... Alors du coup, je me suis rappelé un livre que j'avais lu il y a... Peut-être quand j'étais au séminaire, ou je sais pas, il y a... Donc ça veut dire il y a longtemps. Qui m'avait drôlement bien plu. À une époque où je commençais quand même de fréquenter les Saintes Écritures, mais peut-être sans avoir encore tout l'appareil technique qu'on apprend dans les cours d'exégèse, hein, toutes ces... et qui m'avait un peu, je sais pas, décoincé, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin qui m'avait ouvert à... Je m'étais rendu compte, moi qui n'étais pas de culture littéraire du tout, ça m'avait un peu familiarisé avec non seulement le génie théologique de la Sainte Écriture, mais aussi son génie littéraire, et peut-être plus encore que le premier est donné à même le second. Ouais, donc c'est... Et ce livre, c'est un livre alors, d'un auteur que vous connaissez sûrement, qui s'appelle C.S. Lewis, qui est peut-être plus connu pour ses... Enfin, on connaît tous, je pense, ses livres dits pour enfants, mais qui sont quand même aussi assez sérieux, notamment Le Monde de Narnia. Et puis il a fait une trilogie aussi, alors c'est pas, c'est un roman un peu de science-fiction, un truc très très bien qui s'appelle La Trilogie Cosmique, en trois volumes d'ailleurs, Trilogie Cosmique, voilà, qui est... Alors, vous riez, mais parce que, si vous riez, parce que ça, vous n'avez aucune culture, mais parce que il y a un livre excellent qui est une quadrilogie en cinq volumes, d'un auteur dont le nom m'échappe, mais qui est... Donc c'est pour ça que c'est pas idiot de dire que c'est une trilogie en trois volumes, mais... Donc il a fait des romans, cet homme-là, mais à la base c'était un universitaire, enfin, il était professeur de philologie et de littérature, un petit peu comme Tolkien, qu'il connaissait bien, ils étaient amis, ils sont un petit peu brouillés à un moment donné, puis ils se sont réconciliés. Si je me souviens bien, d'abord à Oxford, puis à Cambridge. Et donc ce C.S. Lewis, c'est vraiment un homme de lettres, voilà, quelqu'un qui... Alors, notamment la littérature médiévale, l'ancien anglais, enfin, ce genre de choses, qui personnellement est né, bon, il était anglais, donc à cette époque-là, être anglais, c'était être anglican, donc il avait une éducation chrétienne, mais il s'était détourné de la foi à l'adolescence, et pendant, je crois, plus d'une dizaine d'années, il se définissait comme athée. Il y a même une époque où il avait été hégélien, parce qu'il y avait des hégéliens en Angleterre. On a oublié ça, mais il y avait un courant hégélien en Angleterre. Donc il s'est rattaché un petit peu à ça. Puis il s'est converti ou reconverti, enfin converti, donc jeune adulte encore. Et parallèlement à son travail d'universitaire, il a fait pas mal de bouquins de théologie, toujours un petit peu à côté d'un lieu de théologien, de métier, justement. C'est ça que je trouve intéressant chez C.S. Lewis, c'est que, un petit peu comme Newman aussi, hein, qui disait « je ne suis pas théologien », et ce n'est pas complètement faux. Il se définissait plus comme historien, Newman. Et Lewis, c'est un littéraire, alors, qui avait une bonne culture philosophique, théologique, mais pas théologien de métier. Il a fait pas mal de livres, souvent un peu à une tournure apologétique. Hein. Il a fait un livre sur les miracles, qui est tout à fait intéressant. Une espèce de synthèse de qu'est-ce que serait que le christianisme. En deçà, enfin en amont des différences confessionnelles, vous voyez, donc avant même de dire bon, ben, je suis catholique romain, je suis orthodoxe, je suis anglican, c'est quoi le socle commun du christianisme, enfin, toutes sortes de livres. Alors vous connaissez aussi La Tactique du Diable, ça c'est assez connu. Puis je vous conseille aussi alors un très très beau livre sur les fins dernières, mais c'est peut-être un, je trouve son meilleur, qui s'appelle Le Grand Divorce, qui est une réplique donc à William Blake, je pense, sur le mariage du ciel et de la terre, si je me souviens bien. Mais donc, c'est qui est une espèce de méditation, alors à la fois, enfin, méditation plutôt, c'est un narratif, quoi. Il y a une espèce de récit, mais très très puissant, je trouve, sur une théologie des fins dernières. Bon. Et alors, parmi tous ces livres-là, il a fait un livre sur les psaumes. Alors, c'est ce livre qui m'avait marqué, donc je vais m'aider de C.S. Lewis pour vous donner quelques repères. Pas du tout de manière très organique en disant on met la théologie des psaumes, voilà, enfin, on part de là, on arrive à ça. Bon, je crois que vous aviez déjà eu des trucs sur un peu la structure en 5 livres, ce genre de choses. Donc, je vais pas faire quelque chose de très organisé, mais un petit peu des points intéressants. Moi, surtout, c'est des choses, je trouve ça intéressant quand on prie les psaumes. Je pense que vous continuez de fréquenter les lodes, enfin, voilà, on sait bien quand même, le psautier, c'est un de nos livres de prière, donc c'est des trucs qui nous aident à prier. Enfin, moi, ça m'a aidé à prier. Donc, je vous donne quelques points. Bon, enfin, ce sera pas très bon, mais tant pis pour vous. Fallait pas m'inviter. Et donc, il y a trois parties. Alors, j'ai mis ça, donc, il y a une première partie, un livre humain, voilà. Alors, ça, je crois qu'on va très bien sentir ce côté littéraire, comment dire, prof de littérature de C.S. Lewis, donc il va spontanément utiliser pour le psautier, qui pourtant est d'une toute autre période et un tout autre contexte culturel que celui dont il a l'habitude, mais il a le réflexe d'un professeur d'Oxford ou de Cambridge, donc il est attentif aux manières littéraires de s'exprimer dans le psautier, et c'est déjà une manière d'entrer dans la théologie des psaumes. Ensuite, un deuxième chapeau, on va dire, une deuxième partie. Vous avez donc la feuille, j'ai fait une petite feuille de route, vous l'avez sous les yeux, donc un livre de louanges. Alors bon, j'ai mis ça comme ça, mais différents aspects de la louange dans le psautier. Et puis un dernier point qui est peut-être le plus précieux pour nous, en tout cas je pense que c'est nous qui sommes chrétiens, qui nous emparons de ce livre de prière qui est à la base juif. Je crois que vous avez une conférence d'ailleurs de Rivon Crigier, ce qui nous a montré l'actualité des psaumes dans la prière juive. Donc pour nous, c'est à travers le Christ aussi qu'on prie les psaumes, parce que le Christ a prié les psaumes, parce qu'à vrai dire, tous les psaumes, d'une manière ou d'une autre, nous parlent du Christ. Donc ça sera la dimension christologique du psautier. Un livre humain, le psautier, un livre humain, un livre de louange, un livre christologique. Alors d'abord le livre humain, donc quelque chose sur une dimension du psautier, enfin des psaumes sur laquelle Lewis insiste, et il faut être sensible au fait que ce sont essentiellement des écrits poétiques. Il y a différents genres littéraires, comme on dit dans la Bible. Il peut y avoir des récits historiques, il peut y avoir des écrits de sagesse, il y a des oracles prophétiques, des commandements, enfin, il y a toutes sortes de genres littéraires. Et vous savez que c'est bien de ne pas se tromper sur... le genre littéraire, ça conditionne l'interprétation. Voilà, on n'ouvre pas un roman de Siménon comme on ouvre Le Bottin mondain, sinon on n'y trouve pas ce qu'on cherche. Donc il faut être sensible à cette dimension poétique. Et dans une ligne, c'est assez amusant parce que, ça on a dû vous le dire, mais je vous le redis, il est sensible à une des dimensions qui n'est pas tout à fait la seule, parce qu'il y a aussi une dimension rythmique, mais des dimensions les plus évidentes. C'est bien de la repérer dans les psaumes, c'est ce qu'on appelle un mécanisme poétique sémitique, donc c'est ça, même pas uniquement dans la langue hébraïque, c'est un peu plus large que ça dans la sphère linguistique, qui est le parallélisme. Alors il note ça, alors je pense qu'il l'a repéré de lui-même, mais c'est assez amusant parce qu'un des plus anciens érudits qui a repéré la chose, en tout cas chez nous, parce que je pense que ceux qui faisaient les psaumes le savaient, mais ils le savaient tellement que... ils n'avaient pas besoin d'en parler, mais c'est aussi un professeur d'Oxford au XVIIIe siècle. Alors, comme je suis nul en anglais, je ne veux pas bien savoir prononcer son nom, mais c'est Robert Lowth, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, L-O-W-H-T, quelque chose comme ça. Enfin, ce monsieur, donc, qui a enseigné, alors non pas d'ailleurs la théologie biblique, non pas l'exégèse, dans l'Oxford du XVIIIe, mais déjà la poésie, vous voyez, c'est assez... Donc, quelqu'un qui a un profil un peu comme celui de Lewis, c'est le premier qui a repéré ça, de dire la poésie des psaumes, et même aussi dans les oracles prophétiques, c'est plus large que les psaumes, fonctionne par Dupont et Dupont, c'est-à-dire je dirais même plus. On dit toujours les choses deux fois. je vais aller dans la rue, je dirais même plus, je sortirai, je passerai par la porte. Enfin, mon paradis, c'est pas très bien. Non, c'est plutôt, je vais prendre un véhicule, je dirais même plus, je monterai dans ma voiture. Vous voyez, on dit les choses deux fois de manière un peu différente. Donc parallélisme, alors synonymique, ça c'est le plus, enfin, c'est assez fréquent, ça peut être aussi des parallélismes antithétiques, ça peut être des parallélismes où on va étendre le champ, donc on nous dit un truc un peu particulier, puis ensuite une insertion plus universelle, ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la Bible. Alors ça, je pense qu'on vous l'a dit, mais moi, il y a un psaume que j'aime bien lire, on a le dimanche, je crois, après-midi au Vêpres, parce que alors là, vraiment, ce psaume-là était fait pour qu'on mette en valeur le parallélisme synonyme, le parallélisme poétique, donc c'est le psaume 113. Quand Israël sortit d'Égypte, bon, ça fait allusion à l'Exode, hein, et Jacob de chez un peuple étranger, oui, je dirais même plus, donc il y a Dupont qui dit quand Israël sort d'Égypte, il y a Dupont, et je dirais même plus, Jacob de chez un peuple, c'est exactement la même chose, en fait. C'est, on ne comprend pas bien pourquoi. Bon. Judas fut pour Dieu un sanctuaire, donc ça c'est une nouvelle idée, c'est-à-dire que on sort d'un lieu d'esclavage, et en fait, le lieu où on arrive, qui est la terre de Canaan, la terre de devient pas simplement pour nous, mais pour Dieu un sanctuaire. Et alors là, Dupont avec un T, vous savez, ils n'ont pas la même moustache, hein, c'est attention, faut pas les... ils ont Dupont et Dupont, c'est pas... Israël devint son domaine. Ouais. Judas fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Donc on redit deux fois la même chose. Alors après, on revient sur l'Exode. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Mais... alors c'est intéressant, c'est un peu plus... c'est synonymique, mais un peu plus subtil, puisque ces deux phénomènes, d'ailleurs, dans la Bible, c'est prévu pour, hein, entre le livre de Josué et l'Exode, pour dire on entre dans Canaan comme on est sorti d'Égypte. Enfin, c'est quand même un peu quand même deux fois la même idée. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Et puis, alors, ce qui est très formidable dans ce psaume, c'est qu'il y a une autre structure qu'on aime bien dans la littérature, dans la poésie hébraïque, enfin, même dans le récit hébraïque, c'est de faire des, comme on dit, des chandeliers, ou des chiasmes, ou des trucs, enfin, voilà. Des structures géométriques A, B, C, C', B', A'. Et donc là, le gars, il dit, bon, j'ai écrit la moitié d'un psaume, je vais écrire l'autre moitié en mettant dans un miroir, donc il va reprendre exactement l'inverse. Je vais m'y mettre à écrire des psaumes, hein, ça n'a pas l'air si compliqué. En fait. On peut tous écrire des psaumes. Hein. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Colline comme des lions? Il pose des questions. Alors, faites comme ça dans vos mémoires. Hein. Un mémoire de 100 pages, vous faites 50 pages, puis après vous mettez des questions. Là, tremble. Alors non, la fin est un peu différente. Tremble terre devant le maître, devant la face du Dieu de Jacob, donc de nous, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Voilà. Magnifique exemple, psaume 113 de Paris, synonymique. Et alors, Louis dit quelque chose, fait une remarque, il est intéressant, je trouve. Il dit, dans la mesure où l'écriture sainte, y compris la partie hébraïque, hein, la partie Ancien Testament, dont la vocation première est d'être une lumière pour Israël, enfin, c'est la parole de Dieu pour Israël, donc pour une culture spécifique, une langue spécifique, mais qui par providence divine va toucher tous les peuples de la terre, et donc sa destinée sera d'être traduite. D'ailleurs, elle le sera même dans le monde juif, Alexandrie, cette Bible hébraïque, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même remarquable que ce qui est caractéristique de la forme poétique de la langue hébraïque soit quelque chose qui se traduit remarquablement bien, beaucoup plus que si c'était des rimes ou des choses comme ça. Alors, il y a aussi un aspect rythmique dans l'hébreu et dans la poésie hébraïque, ça, pour le coup, ça se traduit beaucoup moins bien, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut garder, ce parallèle, qui joue sur le sens, en fait, plus que sur la sonorité des mots. Et donc, il note déjà cette chose-là. La poésie des psaumes nous est accessible. Peut-être pas entièrement, mais il y a quelque chose de la poésie des psaumes qui nous est accessible, même si nous les lisons en français. Même si nous les lisons dans la tobe. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Donc, tout le monde sait que la tobe, c'est les notes qui sont inspirées. Donc, mais... voilà. Donc, Alors, deuxième, c'est à peu près vrai aussi de la traduction liturgique, hein, qui n'est pas fantastique. Bon, alors, deuxième point que repère Louis, qui est à la fois littéraire et théologique, ça c'est quelque chose que qu'on entend beaucoup, hein, et pas que pour les psaumes. Alors j'ai mis ça, alors je sais pas comme ça qui s'exprime, mais de dire c'est un texte sans filtre, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on lit les psaumes, surtout quand on peut-être plein de bonne volonté la première fois, donc des premières fois on dit tiens, voilà, on me dit, moi qui suis chrétien, je vais lire les psaumes, puis on est un peu habité par des idées du genre l'amour du prochain, le pardon, des choses comme ça, on peut être surpris, voire choqué par les sentiments à la fois qui s'exprime très violemment, donc on met souvent pas tellement de gants pour exprimer les grandes émotions qui peuvent traverser le cœur humain, et on met pas non plus tellement de gants pour révéler ce qu'il y a dans le cœur humain, ou même demander à Dieu des choses, des actes qui correspondent à ces sentiments humains, qui peuvent être la vengeance, la haine, la détestation de l'ennemi, enfin ce genre de choses. Mais c'est un texte sans filtre. Donc il y a des et à notre époque, on est justement, on a tendance à tout polir, à tout, voilà, que ça soit bien. Il faut surtout pas être clivant, faut que ce soit un peu un safe space. Hein, vous savez, ouais. Personne se sent d'ailleurs. Je vais couper ce truc. Il ouais, faut que tout le monde soit ah, là. Les psaumes, mais c'est curieux. Puis même, on peut se dire quel est le sens. Comment peut-on prier avec des élans qui peuvent nous choquer, puis aussi dont on peut se dire. Est-ce que j'ai moi-même éprouvé des choses aussi violentes ? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a des sentiments aussi violents. Ouais. C'est des mots qui peuvent parfois nous sembler trop grands ou excessifs pour ce qui habite vraiment notre cœur. Dans la prière, ça peut gêner. Alors là encore, Louis. Ah oui, alors par exemple, Louis, il y en a un que j'aime bien lire pour ça. C'est, je crois que c'est le 137. Mais alors en plus des psaumes, on sait que. Le diable existe parce qu'il s'est débrouillé pour que ça soit pas les mêmes numéros. On cherche un truc, puis entre la Septante et le texte massorétique, c'est pas les mêmes. On cherche un truc, c'est. Est-ce que c'est le psaume 137 non, c'est pas ça. Ah non, c'est le synonyme, c'est pas celui-là. Alors attends, c'est lequel que je voulais suivre. Ah ben si, c'est celui-là. Ah oui, si, c'est 135. Moi j'aime beaucoup, c'est ça qui dit pète la gueule à mes ennemis, éternel et ton amour. Ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est. On a ça le lundi soir, je crois d'ailleurs, c'est ça. Lui qui frappa les Égyptiens de leurs aînés, éternel et son amour. Moi, en fait, j'aime bien cet amour. Moi, ça me parle. Ça, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Voilà, il sait, qu'est-ce qu'on a ? Il rejetant Pharaon et ses armées, lui qui menace son peuple aux airs. Donc ça, c'est qui frappa des princes fameux. Alors pas des princes sales. Hein. Qui frappa des princes fameux, éternel et son amour, et fit périr des rois redoutables, éternel et son amour. Ah, c'est très bien. Vous voyez donc cette espèce même de. De non seulement de violence, mais même c'est comme ça qu'on comprend l'action de Dieu. Et c'est pas simplement anthropologique, ça c'est ça, c'est un peu ça le point. C'est pas simplement, donc c'est sans filtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de libérant de se dire que la parole laisse un espace pour que ce qui est en nous est souvent. Parce que par notre correction, parce qu'on veut être bien propre sur soi, l'arrêt de côté, tout ça. Donc je vais pas trop dire les sentiments forts qui m'habitent. Donc il y a une espèce de libération anthropologique dans les psaumes. Mais il y a une dimension théologique à cette libération, parce que éternel est son amour. Voilà, donc ça nous dit quelque chose aussi de Dieu, cette espèce de texte sans filtre. Et alors Louis, comme pour illustrer, donc, enfin, en tout cas pour défendre, toujours un petit peu quelque chose d'apologétique chez Louis, pour les gens qui sont choqués par ça, il dit « Ok, c'est peut-être pas le dernier mot de l'Écriture sainte, et c'est parfaitement vrai, Jésus-Christ... entre guillemets, enfin c'est peut-être pas très bien dit, mais dépasse peut-être ce désir de vengeance qui s'exprime sans filtre parfois dans les psaumes, ou psaume 136, heureux celui qui frappera Babylone, heureux celui qui frappera le crâne de tes ennemis sur le crâne de tes enfants sur le rocher. Bon. On voit bien que Jésus est dans un autre registre de langage, parce qu'il nous appelle à quelque chose de un rapport différent avec Dieu et avec même nos ennemis, aimez vos ennemis. Mais donc Louis observe que il faudrait pas non plus que cette évangile, enfin cet évangile de la charité, viennent anesthésier notre capacité à percevoir le mal dans le monde. À la fois celui qui peut nous frapper, mais là, peut-être que c'est assez rare qu'on l'oublie, mais surtout celui qui peut frapper nos frères, vous voyez. C'est-à-dire que si, quand je suis témoin voilà, d'une situation objectivement injuste à côté de moi, enfin, où quelqu'un vraiment subit la méchanceté d'un autre et que à force d'avoir dit Dieu est amour, faut pardonner, etc. J'en viens à ne plus être scandalisé par le mal qu'on fait à mon prochain. En réalité, je me mets aussi à côté de l'amour que le Christ me demande d'avoir pour mon prochain. Et donc, il présente ça comme peut-être pas le dernier mot de l'Écriture sainte, c'est pas le dernier mot de la parole, mais aussi un garde, mais quand même un truc utile, un garde-fou. Voilà. Il faut garder en nous une certaine sensibilité au mal pour pouvoir aimer son prochain comme le Christ nous demande de l'aimer, et les psaumes servent aussi à ça. Voilà, ici quelques exemples d'ailleurs où des gens, il dit lui-même, où des gens semblaient avoir bizarrement ne pas être sensibles à des atrocités qu'ils avaient, dont ils avaient pu être témoins. Il dit ben, il ferait mieux de lire un petit peu plus les psaumes. Voilà, puis troisième point, alors que j'ai noté dans ce côté, on peut se dire, toujours un peu un livre humain. Alors à la fois dans le côté, ben, c'est une vraie littérature humaine, donc comme le dit le Concile Vatican II, Dieu inspire les auteurs, les agiographes, les auteurs inspirés de la Bible, sans court-circuiter leur capacité humaine. Donc ils s'expriment comme s'exprime n'importe quel auteur de leur époque. Donc c'est un livre humain dans sa composition, mais c'est bien un livre humain, un peu comme on peut dire, un peu trop humain, donc un peu, on prend dans de haut en disant ben, c'est juste une étape intermédiaire, mais où il y a toujours des enseignements à tirer de ce côté humain, peut-être un peu trop humain. C'est, il souligne la dimension relativement rudimentaire de l'eschatologie des psaumes. Et là encore, on pourrait élargir, c'est pas vrai que des psaumes, mais globalement, l'Ancien Testament dans son ensemble, enfin, s'intéresse à l'eschatologie dans une certaine mesure. Ça va beaucoup se développer dans des livres, mais qui dont très peu sont passés dans le canon, qui est ce qu'on appelle les livres apocalyptiques. Donc une bonne partie s'intéresse à l'eschatologie. Donc l'eschatologie, c'est les fins dernières. Mais globalement, contrairement par exemple en Égypte, on s'intéresse beaucoup à ce qui va se passer dans l'après-vie, même le seuil d'affranchir entre le monde des vivants et le monde des morts, quels sont les contacts. La Bible n'est pas tellement intéressée par cette chose-là. Et lui, il dit parfois, ça peut sembler un peu curieux que ce qui est un peu le sommet de la prière hébraïque, enfin, le livre des psaumes, le livre des prières du temple, hein, beaucoup de ces prières étaient prises au temple à l'origine, paraissent si peu orientées vers le ciel, on va dire, vers le monde qui vient, ou vers l'au-delà, et tellement, au contraire, tournées vers ce monde-ci. On peut avoir des demandes justement dans les psaumes où c'est limite voilà, assure une bonne prospérité à mon troupeau, fait que je ne sois pas malade. Enfin, des demandes très très humaines, voilà, très très quelque chose de très humain, quelque chose de très charnel, si vous voulez. Alors là, même argument que pour le fait que ce soit sans filtre, il est bon de dire qu'il n'y a pas que les psaumes, il n'y a pas que l'Ancien Testament comme parole de Dieu qui s'adresse notamment à nous qui sommes chrétiens. Et donc on a d'autres éléments plus riches sur l'eschatologie dans le Nouveau Testament, chez saint Paul, même dans les évangiles, enfin, ce genre de choses. Mais d'un point de vue pédagogique, justement, c'est peut-être d'autant plus important, dans la mesure même où Jésus nous a ouvert les portes du ciel, enfin, il nous a tracé le chemin, que c'est exactement le même argument de ne pas prêter le flanc à la critique que les marxistes nous répètent. Enfin, vous nous répétez s'il y en a encore, mais de dire, finalement, au nom du ciel que vous promettez aux classes laborieuses, vous oubliez de vous intéresser à leur misère bien réelle sur la terre. Donc là, on transpose un petit peu en disant les préoccupations du psalmiste sur cette terre nous rappellent que Dieu n'est pas simplement notre Dieu au ciel, mais il est le Dieu qui, très concrètement, nous rejoint dans nos douleurs présentes, dans les douleurs de nos frères et sœurs pour qui nous sommes invités à prier, non ? Aussi nos espérances, qui peuvent être des espérances peut-être pas archi-spirituelles, enfin encore que, mais prier pour sa guérison, la guérison de quelqu'un, qui ont du sens pour ici, pas le monde de la résurrection, mais elles ont peut-être du sens que pour ici, mais elles ont quand même du sens pour ici. Et là encore, les psaumes servent un peu de contre-feu, voilà. Une religion un peu tellement spirituelle qu'elle finirait par être inhumaine. Comme disait Peggy à propos de Kant, hein, c'est très beau le kantisme, mais les kantiens ont les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. Voilà. Donc une prière tellement pure qu'elle n'aurait pas d'ancrage dans ce monde-ci, bah, les psaumes, dans leur côté eschatologie très rudimentaire, voire absente, sont quand même précieux pour notre vie spirituelle. Voilà, première partie, donc le livre, un livre humain. Deuxième partie, un livre de louange. Alors ça, c'est tellement important que ça, le rabbin, je l'appelle père, le rabbin Yvon Crigé a dû vous dire ça, c'est Tehilim, c'est comme ça qu'on désigne le livre des louanges, hein. Enfin Tehilot, c'est à la fois, Tehilim, c'est à la fois la prière, les louanges. Alors j'ose pas trop, parce que Hallel, si je dis Hallel, j'ai vite fait de dire le mot qu'on n'a pas le droit de... J'ai vite fait de dire Voldemort, enfin faut pas dire le mot qu'on n'a pas le droit de dire, enfin, c'est la même racine, quoi. Hallel, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment les louanges, hein, donc en carême je peux pas, mais... Livre de louanges, alors. Cette louange, elle va passer, on va louer Dieu pour différentes raisons, dont certaines peuvent nous sembler très naturelles, puis d'autres un peu curieuses. Alors il commence par le jugement, vous voyez. Le jugement, une joie, alors. Le jugement, une joie, une louange, on va louer Dieu, juge. Bon, c'est un... Alors, il y a pas mal de psaumes qui font allusion à cet attribut divin, avec Dieu qui est juge. Alors, là encore, dimension apologétique de C.S. Lewis, toujours de dire, ben, ça nous surprend, mais il y a quand même une... comment défendre cette position, de cette louange curieuse de... des psaumes, louer Dieu comme juge. Alors, on peut donner au moins deux arguments intéressants. Donc, le premier, c'est que se rappeler que le jugement, enfin, le mot... La tzedaka, hein, tzedaka en hébreu, c'est la justice. Le tzaddik, c'est le juge. Le juste, pardon. Le juste. C'est une notion qui recouvre partiellement ce que nous appelons jugement, mais qui est plus large. Dieu juge, c'est à la fois Dieu qui juge, c'est-à-dire là, ça, c'est ça à quoi on pense, parce qu'on a plus Aristote en tête que la justice dans la Bible. C'est celui qui rend à chacun ce qui lui est dû, en particulier qui rend... au méchant, le châtiment quand il faut châtier le méchant, et au juste et au bon, la récompense quand il faut le récompenser. Cette dimension existe, ça fait partie de la justice de Dieu. Donc Dieu, on va dire, dans la justice de Dieu, il y a le jugement, mais il y a une autre dimension dans la tzedaka divine, très importante, et assez souvent, quand le psaume en parle, c'est aussi cet aspect-là qui est visé, c'est Dieu qui justifie. Dieu est juge, pas simplement quand il récompense le juste et qu'il punit le méchant, mais aussi quand il transforme le méchant en juste. Et c'est peut-être même là qu'il se révèle le plus comme Dieu. Ah, donc célébrer Dieu juge, c'est pas simplement célébrer un Dieu voilà, qui, peut-être à la fin des temps, mais encore je viens de dire qu'il n'y avait pas trop d'eschatologie, non, mais c'est aussi Dieu qui nous sauve. En fait, célébrer le jugement de Dieu, c'est célébrer le salut de Dieu. La justification, c'est un autre nom du salut. Donc c'est vraiment une joie pour nous, finalement. C'est vraiment, s'il y a un motif de louange que les psaumes ont bien raison de réveiller en nous, c'est bien ce Dieu qui nous sauve. Et puis alors, il fait une autre remarque qui ressemble, qui rejoint le côté texte sans filtre, c'est qu'il dit, si peut-être on est peu sensible à Dieu juge, même dans le côté filer des baffes aux méchants et donner du chocolat aux gentils, c'est peut-être parce que nous n'avons jamais été réellement, nous avons peut-être la chance d'avoir jamais été victime d'une vraie situation d'injustice. Et en fait, les psaumes sont là, il faut être capable de se dire, les psaumes sont là, pas simplement pour moi qui est peut-être par chance, ou par tout va bien, je suis pas malade. Donc, ben c'est vrai que si je suis pas malade, que j'ai pas d'ennui, que je travaille bien, que tout va bien, au bout d'un moment, j'ai mis finalement quel psaume correspond à ma vie. Mais il en reste quasi plus. Quoi. Parce que c'est toujours des mecs qui ont ou des problèmes ou des ennemis où on les diffame. Ils sont prisonniers de guerre à Babylone. Donc, au bout d'un moment, on dit merde, moi tout va bien en fait. Quelle place il me reste pour prier alors. Donc, peut-être se rendre compte que déjà, il y a des gens. Tout le monde n'a pas ma chance. Il y a peut-être des gens pour qui ça peut être une grande consolation, mais très spirituelle, de savoir, de chanter les psaumes en appelant Dieu, en disant « Viens à mon secours, viens, sois juge entre moi et mon ennemi. J'ai besoin de ta justice. » Donc ça, c'est des... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis l'autre dimension aussi, c'est un peu plus difficile de réaliser ça, mais je crois que ça fait partie aussi de cette prière que nous faisons, notamment en Église, c'est de dire, mais si moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin que Dieu me rende justice, parce que tout va bien de ce côté-là, comment me rendre solidaire de celui qui en a besoin? Et là, les psaumes, justement, nous disent, mais à côté de toi, il y a peut-être quelqu'un qui est heureux que tu chantes avec lui, Dieu, rends-moi justice. Donc une dimension, les psaumes viennent dilater notre cœur, même quand c'est le jeu psalmique. Donc il y a une très bonne thèse faite par un prêtre de Paris qui est un peu notre confrère aussi, mon père Maxime et moi-même, donc, qui est le père Étienne Grenet. Il a écrit une thèse très savante sur le jeu psalmique. C'est un jeu à la fois très individuel, mais aussi très collectif, ou en tout cas très ecclésial. Alors deuxième étonnement de la louange des psaumes, c'est on loue, on va rendre louange, on va louer Dieu pour la loi. Alors là, vraiment, ça, c'est vrai que ça nous paraît encore plus bizarre, parce que même si on n'est pas des 68ards acharnés, peut-être que je remets mes lunettes pour voir si parmi vous, il y en a que je pourrais soupçonner d'appartenir à ces populations, mais j'ai pas tellement l'impression. En général, on dit, bon, la loi, c'est pas forcément qu'on aime ça, mais il faut bien ça. Vous voyez, souvent, c'est un peu par réaliste de dire il faut quand même, on a bien besoin de commandements, de lois civiles, pénales, canoniques, enfin tout ce que vous voulez, de règlements, on a besoin de règles à un moment donné. Mais ça viendrait peut-être pas à l'idée de louer le Seigneur pour les règles, c'est plutôt dire bon, c'est un truc pratique, puis basta. Enfin, or, la loi est vraiment un des thèmes, un des grands thèmes de la loi, genre notamment le psaume. Que je vais vous lire en entier, le psaume 118, non, je vais pas le vous lire en entier, c'est un psaume alphabétique, donc il y a 22 lettres, enfin j'espère que je me trompe pas dans les numéros. Ah oui, si c'est ça, c'est ça, je me trompe pas. Ah oui, voilà, c'est le psaume 118. Alors déjà, ils ont mis un titre, alors là, ça c'est les éditeurs, hein. De quel amour j'aime ta loi, vous voyez, ça commence, donc, enfin, vous connaissez mille fois ce truc, donc c'est Aleph, chaque, vous voyez, c'est un truc fait, là encore, c'est un truc un peu de poésie hébraïque, c'est un psaume alphabétique, et chaque, il y a tous les mots, quoi, des versets. Il y a 8 versets par lettre, et ils commencent tous par la lettre, donc alphabet, hein, alphabet. Donc, heureux les hommes intègres dans leur voie, qu'ils marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Bon, c'est un peu la même chose qu'avant. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes, observer entièrement, puisse me voir s'affermir, observer tes commandements. Ainsi, je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Et il y a 22 strophes comme ça, avec plein de mots. Donc, on loue vraiment le Seigneur pour la loi, il y a un psaume, c'est entièrement ça. Ouais. Ce qui est l'essence de la spiritualité, alors peut-être pas juive, ça serait peut-être excessif, mais en tout cas pharisienne et donc rabbinique aussi, parce que c'est donc le judaïsme actuel, est tout à fait dans cette ligne-là. Voilà, il y a un psaume aussi qui dit « J'ai fait de ton commandement mon cantique ». Voilà, on le chante d'ailleurs, alors que ça ne viendrait pas l'idée de dire « Tiens, je vais composer une chanson, alors tu ne tueras pas, tu ne... » Voilà, ouais. C'est pas les paroles qu'on met, ouais, c'est, on sent qu'on va pas être au top 50 avec ça. J'ai mis le décalogue en musique, donc c'est... Ben non, mais j'ai fait de ton commandement mon cantique. Donc on aime tellement la loi qu'on la chante, en fait, on la met en musique. Bon, ben, voilà. Alors pourquoi cet amour de la loi? Évidemment, là encore, on peut dire c'est la loi... Pas uniquement les commandements, c'est la parole de Dieu. Donc déjà, c'est peut-être un peu plus compréhensible de faire monter sa louange auprès de Dieu qui nous parle, parce que, comme vous le savez, donc on n'est pas ce qui tient lieu de penser chez les Grecs, c'est la parole chez les Juifs. Donc Dieu nous parle, et si Dieu ne nous parlait pas, on n'aurait pas de contact avec lui. Donc on le loue, on fait monter sa louange pour Dieu qui nous parle. Donc ça serait la loi, la Torah, au sens large. Mais même si on prend la Torah en sens plus étroit, là encore, Shulamit, il a une très bonne, il a une remarque assez fine, il dit, mais on mesure peut-être pas assez que la loi, effectivement, d'abord dans ce côté impératif, c'est un des commandements, décalogue, mais il y a même 613 commandements, donc d'après les rabbins, donc 365 positifs, et puis la différence... que je laisse à votre sagacité, donc 613 moins 365 de commandements négatifs, qui me disent quoi faire et ne pas quoi faire. Il y a aussi, notamment dans les psaumes, on comprend notamment le psaume 18, alors ça c'est très beau, c'est quasiment Quentin, la loi dans mon cœur, puis les astres au-dessus, les étoiles au-dessus du ciel, je ne vais pas lire le psaume 18, vous le lirez chez vous. C'est de dire, en même temps qu'il y a la loi, pour le psalmiste, c'est le même contrôle que le Créateur exerce sur sa créature, à la fois en lui donnant des commandements et en inscrivant une rationalité dans le cosmos. Oui, la loi, on pourrait dire, c'est le double aspect, l'antanaclasme, en fait. Sur le mot loi, donc il y a différents sens, la loi descriptive, les lois de la nature, et puis les lois prescriptives, les lois morales ou les lois... Et pour le psalmiste, c'est la même dimension de Dieu qui s'exerce dans la double loi, ce que médite le psalmiste dans le psaume 18. Et ça donne le fait que Dieu, le Créateur, donne une ossature à la création, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant, en fait. Et c'est quelque chose qui doit nous faire louer Dieu. Il n'y a rien de pire, finalement, qu'un téléphone qui sonne au mauvais moment. Et pire encore que ça, ça serait un monde qui n'ait aucune... Comment dire, c'est une espèce de grand chamallow, vous voyez, une espèce de truc où il y a bien de l'être, mais rien n'a de prise, rien n'a de constance. Le monde me donnerait une direction un matin, puis le soir, ça serait tout à fait différent. Un petit peu comme un personnage qui me... Le matin serait mon ami, et le soir, sans aucune raison, serait mon ennemi. Ouais. Donc, le fait que... Il n'y a peut-être pas que ça dans la création, mais qu'il y a des choses qui résistent. On a un squelette, ouais. Il n'y a pas que de la chair, le corps humain lui-même fait penser à ça. On a un squelette qui tient debout, et puis on a une chair qui peut sentir, qui parfois peut saigner. Enfin, voilà. Et heureusement qu'on n'est pas que squelette, parce qu'être que squelette, en général, c'est que on n'est pas en très bonne santé, mais, mais heureusement qu'on n'est pas que chair, enfin, sinon on serait très peu différent d'une espèce de, je sais pas quoi, d'une huître, enfin, on a pas envie, on a besoin des deux, et la loi, c'est comme le squelette, et de même qu'on peut louer le Seigneur pour avoir, je tiens debout, de louer le Seigneur pour avoir mis quelque chose qui tient le monde, un ordre, une stabilité, une fiabilité. Surtout si, alors là, il pousse un peu cette ligne, c'est de dire que chez les païens, c'est sans doute pas complètement faux, un des trucs qui inquiète un peu les païens, dans beaucoup de sphères culturelles, lui, il pense plutôt aux païens, au paganisme gréco-romain, mais c'est vrai plus largement. Un des trucs embêtants avec les dieux, c'est que précisément, ils sont pas très fiables. C'est que les dieux, ils peuvent se fâcher, on sait pas trop pourquoi, ils changent d'avis. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on leur offre des sacrifices. C'est que, assez souvent, quand on se met à avoir des ennuis, on se dit, mince, j'ai dû déplaire, je sais pas... à Zeus ou à Athéna ou je sais pas qui, on réfléchit alors et puis on se dit ben, ça peut être ça, mais si je sais pas trop, je dis bon ben dans le doute je lui offre un sacrifice et puis peut-être qu'il va de nouveau me présenter un visage favorable. Donc il y a un côté inconstant, un côté erratique des forces divines dans le monde païen qui est inquiétant. Par opposition, ben, le dieu, il nous a peut-être donné une loi, c'est peut-être pas marrant tous les jours d'obéir à la loi, mais au moins c'est fiable, au moins c'est stable. Troisième point, c'est la création. Alors, on loue beaucoup dans les psaumes Dieu, certes, pour l'exode et la libération. Tout à l'heure, je citais la libération de l'esclavage hors d'Égypte. Je citais le psaume 113, qui est. 103, qu'est-ce que je citais 113, voilà. Dieu a fait sortir son peuple hors de l'esclavage d'Égypte. Donc, bien sûr, on célèbre l'histoire, mais on célèbre aussi la création. Et exactement comme pour la loi, enfin c'est lié d'ailleurs au thème de la loi, puisque je vous ai dit dans la loi, il y a la loi du Sinaï qui est celle de la rédemption, mais il y a aussi la loi du monde, la loi de la création. On loue Dieu pour la création parce que il y a un Dieu créateur, donc on loue Dieu pour un de ses aspects, et aussi parce que la création elle-même, elle est bonne. Voilà, même si malheureusement, le péché s'est introduit dans la création, même si on constate ce mal présent en nous, hors de nous, mal moral, mal physique, enfin toutes sortes de mots, de trucs. Mais les psaumes viennent quand même toujours nous remettre en contact avec la bonté première de la création. Là, Dieu vit que cela était bon. Il y a des psaumes qui, même s'il y a des jours où peut-être on a envie plutôt de se lamenter sur le mal qui habite la création, à commencer par mon propre cœur, mais je continue de louer Dieu pour son acte créateur et donc pour la bonté du monde, bonté foncière du monde. Parallèlement, vous avez tous entendu parler, je pense, de ces cosmogonies ou ces théomachies, comme on dit. Théomachie, donc, hein, c'est combat des dieux. Hein, c'est des dieux qui se combattent parce qu'il y a des visions, c'est des cosmogonies, donc ces scénarios d'apparition du cosmos qui, notamment, essaye d'expliquer plus ou moins comment ça se fait que le monde soit si mal fichu. Enfin, il y a des trucs qui marchent bien, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui marchent pas bien. Et donc l'explication la plus logique, enfin, je comprends tout à fait ces mythes comme Enuma Elish, comme Gilgamesh, enfin, dans tous ces trucs-là qui a dans la sphère culturelle d'Israël, hein, d'ailleurs. Hein, on dit il y a du chaos dans le monde parce que dans la genèse du monde, il y avait du chaos ou en tout cas de la violence. D'où cette idée. Je crois que c'est dans Enuma Elish, enfin, un truc qu'on a dans plusieurs textes, dans une mythologie commune dans le Proche-Orient ancien, que le monde apparaît comment ? Alors au début, il y avait des dieux, donc il y avait des dieux, bon, ça allait bien. Puis à un moment donné, alors qu'est-ce qu'ils voulaient avoir ? C'est quoi l'histoire ? Oui, ils voulaient manger, je crois, il y a une histoire comme ça, bon, on peut comprendre ça. Et ils se sont dit, on va faire des hommes pour être nos esclaves et nous donner à manger dans des temples. Et donc, et pour créer le monde des hommes, ils disent, bon, ben, c'est comment on fait, parce qu'ils n'ont pas la puissance de création du vrai Dieu qui est ex nihilo, dans ces espèces de mythes ou de cosmogonies. Donc, il y a un gars qui se dévoue, et donc un dieu, quoi, une espèce de dieu, qui dit, bon, ben, écoutez, tuez-moi, puis avec mon cadavre, vous ferez le monde des hommes. Ce qui a l'air de dire que la texture même du cosmos, bon, il y a le monde des dieux, mais la texture même du cosmos, de la nature, si vous voyez, le monde qui est dans celui dans lequel nous vivons, c'est fait à partir du cadavre d'un dieu qui a été tué par un autre dieu. D'où le caractère violent, enfin, il y a une espèce de meurtre, alors même si c'est un meurtre volontaire, enfin, une espèce de suicide, mais il y a quelque chose de violent à la base même, il y a quelque chose de mauvais à la base même de la création. Là où la Bible nous dit non, il y a en deçà même de tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, il y a quelque chose de bon qui est plus fort. Puis autre dimension qu'on a dans les psaumes sur la création, c'est la vision holistique de la création. Alors ça, vous qui êtes tous bien enfin, comment dire, heureusement, sensibles à ça, à l'écologie et tous ces machins-là, donc c'est très bien. Donc, arrêtez, non mais... Je vais avoir des ennuis. Vous me faites rire, mais non, mais c'est très bien. Arrêtez, c'est très. C'est très bien. Et donc, les psaumes sont tout à fait dans cette ligne, c'est-à-dire qu'on a un sens profond, le psalmiste a un sens profond de l'unité du cosmos. C'est pas simplement l'homme, certes, peut-être la plus belle des créatures, puisque c'est la seule qui a l'image de Dieu qui loue Dieu, mais c'est l'homme avec les autres créatures. Les animaux, les plantes. D'ailleurs, il y a des psaumes comme ça, on admire Dieu en disant, mais on admire beaucoup ça dans les psaumes, dans les livres de sagesse aussi. On dit, les animaux, c'est toi qui les nourris, tu as tout fait bien. L'âne sait quand trouver son partenaire. L'onagre, enfin, c'est encore un âne, ça, mais la marmotte, comment, où trouver la source. Et donc, on admire le fait que Dieu ne se contente pas, d'ailleurs, d'avoir créé les animaux, mais il a disposé le monde comme un lieu hospitalier pour toutes ces créatures, y compris les animaux. Et ça, saint Thomas, il en parle, alors c'est dans la... Je sais plus très bien, c'est dans la question 109 ou 110, je crois que c'est 110 de la Prima Secundae. Quand il... Alors ça, c'est pas tellement Louis qui dit ça, mais moi, je vous le dis. Quand il essaye d'expliquer alors, la différence entre les deux grandes dimensions de la grâce créée, qui sont la grâce sanctifiante et la grâce, enfin la grâce habituelle, c'est pas les mots qu'il emploie, mais ça revient au même, la grâce habituelle et la grâce actuelle. La grâce actuelle, en gros, c'est un Dieu qui vient mouvoir directement mon âme pour poser quelque chose. Donc, c'est Dieu qui a un petit peu prend possession de mon âme pour dire quelque chose, faire quelque chose, aimer quelqu'un. Mais la grâce habituelle, elle est plus profonde et plus surnaturelle parce que c'est une disposition stable qui me met un peu, enfin qui me met au niveau de Dieu, notamment, enfin c'est essentiellement ça d'ailleurs, pour aimer Dieu et mon prochain. Et cette grâce habituelle, comment saint Thomas. Non mais je suis fatigué. On est fatigué. Comment saint Thomas la légitime? Il dit, mais il prend la comparaison des animaux. C'est étonnant, hein, mais il prend exactement cette vision du psalmiste de dire. Si Dieu ne nous sauvait par grâce, certes, mais uniquement par des grâces actuelles, c'est-à-dire toujours en court-circuitant un petit peu nos facultés naturelles, il y aurait une forme de violence, en fait. Dieu nous sauverait, mais Dieu ne respecterait pas sa même création. Et saint Thomas dit de même qu'il préfère mouvoir les animaux par leur instinct que en court-circuitant les médiations de la création, il nous donne une espèce d'instinct surnaturel, et c'est la grâce habituelle. Donc vous voyez comment cette vision, on pourrait dire profondément, c'est très, très branché sur le monde animal, même parfois aussi le monde végétal, hein, même minéral, c'est toujours, pour le psalmiste et pour la grande théologie, ça nous dit quelque chose de Dieu créateur, mais aussi de ce qu'il y a de plus surnaturel. Voilà. Chez nous, le plus charnel est a toujours partie liée avec le plus surnaturel et réciproquement. D'ailleurs, toutes les grandes hérésies visent à couper les deux. Hein, dire il y a le charnel d'un côté, le spirituel de l'autre, et pas de rapport entre les deux. Alors ça, c'est complètement opposé à l'écriture sainte et au christianisme. Il faut peut-être que je m'arrête. À quelle heure je m'arrête, moi, d'ailleurs? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ah bah ça va aller très vite, là. Ah bah si, mais j'ai presque une nécessité de la louange. Ah bah si, mais très bien, Marguerite Métis. 5 minutes. Non, mais 5 minutes, c'est très bien. Alors, 5-10 minutes, voilà. Alors, nécessité de la louange, alors oui, c'est un petit dégagement, mais j'ai déjà presque tout dit. On prend encore plus en amont que ces différents thèmes, livres de louange, mais pourquoi est-ce qu'on loue Dieu qui est juge? Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu pour la loi? Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu pour la création? Mais pourquoi même faut... Pourquoi est-ce que la louange... Dans les psaumes, c'est pas simplement louange à toi, mais c'est même des impératifs, voilà, louer Dieu, ou des portatifs, louant Dieu, mais... On nous commande de louer Dieu. Alors là encore, on peut s'interroger, hein, de même que dans le Deutéronome, par exemple, on dit aime ton prochain. Enfin, non, c'est on dit surtout tu te réjouiras. Pardon, c'est surtout ça. On veut dire, mais est-ce que ça a un sens de commander la joie? Tu te réjouiras, ô Dieu, que le Seigneur a choisi pour y faire demeurer son nom. C'est une espèce de refrain que vous avez dans le Deutéronome. Ça désigne Jérusalem, bien sûr. Tu te réjouiras. Mais j'ai pas envie de me réjouir. Bah, fais un effort. Mais plus tu le dis, moins j'ai envie. Donc, vous voyez, c'est pas naturel. Et la louange, on pourrait dire, c'est pareil. Mais là, encore une fois, c'est une opération très, très forte que fait le psaume. C'est que justement, il nous amène à sentir que, même si nous avons peut-être objectivement des raisons de pas louer Dieu, parce que c'est pas la forme tous les jours, il y a quand même, malgré tout, en nous, un lieu qui reste, qui est peut-être le lieu le plus profond de notre âme, hein, ce que les mystiques appellent la fine pointe de l'âme, ou la scintille de l'âme, comme, enfin, ou le fond de l'âme. Un lieu qui, en nous, malgré toutes les difficultés, les souffrances, les misères qu'on peut avoir, reste capable de louer Dieu. Et les psaumes, nous, en nous forçant, en nous disant « mais loue Dieu, j'ai pas envie, force-toi », et en se forçant, en fait, ça nous fait un bien incroyable parce que je me reconnecte à ce lieu qui est toujours en moi, en fait, où il y a toujours en moi quelque chose qui est encore capable de louer Dieu. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. On a des... Bon, je suis... Alors, c'est pas non plus Louis, c'est parce que je fais finalement un plus grand rapport avec ce que j'avais préparé, mais c'est pas très grave. Mais vous avez sûr peut-être lu Et Ilsoum, là, le... Voilà. C'est embêtant de plus avoir de mémoire. Hein. Vous avez peut-être lu Et Ilsoum. Comment s'appelle son livre? Non, Une vie bouleversée. C'est pour rire. Non, Une vie bouleversée. À la fin, elle écrit, enfin, le plus beau, c'est peut-être à la fin les lettres de Westerbork. Je crois que Westerbork, ça devait être un camp de transit avant d'aller à Auschwitz. Je crois que c'était aux Pays-Bas. Et c'est peut-être là où vraiment on sent que cette femme, qui a commencé un peu bizarrement, enfin, sa vie n'était pas tout le temps un modèle, je pense, mais il y a vraiment, je pense, un travail très très fort de Dieu dans son cœur, dans son âme, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans l'horreur. Et c'est très très curieux quand même dans les lettres de Westerbork, donc elle écrit dans des conditions qui sont parmi les plus inhumaines dans lesquelles quelqu'un peut être plongé, mais elle reçoit une espèce de sérénité, une espèce de paix, elle vient consoler les autres, enfin vous voyez ça... C'est ce lieu-là que les psaumes cherchent quand ils disent « loue le Seigneur ». Voilà. Arrive, essaye de le louer même si tu n'as pas envie. Et je pense que des situations, des personnes comme Et Ilsoum, puis bien d'autres, hein, mais nous incarnent ça. Enfin, ça dit que les psaumes ont raison de nous dire que la louange, ce n'est pas simplement un sentiment spontané qui naît de mon cœur. Je louerai Dieu quand j'en aurai envie, et je louerai Dieu quand j'aurai des raisons pour le faire. Voilà, je louerai Dieu quand j'aurai des raisons pour le faire. Maintenant, la balle est dans ton camp, Seigneur. Ben non, ça va pas. C'est pas ce que dit le psalmiste. Voilà, et ma dernière partie, mais qui sera très très brève. Donc Newman, c'est Louis. Donc insiste là aussi, nous rappelle quelque chose de très très important. C'est que le psautier, pour nous chrétiens, doit être pris aussi comme un livre chrétien, ou en tout cas christologique. Par parenthèse, vous savez sûrement que le psautier, c'est le livre le plus cité du Nouveau Testament. Donc ça nous dit bien quelque chose. Donc les auteurs même du Nouveau Testament ont senti que pour entrer, pour vivre dans le jeu, je reviens à ce fameux jeu psalmique, hein, l'ego, enfin moi, le jeu, pour vivre dans l'intériorité de mon jeu, ce que les évangiles m'exposent un petit peu sur la scène de l'histoire, j'ai besoin des psaumes. Les psaumes sont indispensables pour entrer dans l'intériorité même de Jésus qui, dans son ministère public, ses guérisons, son enseignement, puis peut-être plus encore sa passion et sa résurrection nous a sauvés, pour entrer vraiment dans les sentiments les plus profonds du Christ, enfin même dans son âme. Il faut prier les psaumes, et ce pour une raison d'ailleurs assez facile à comprendre, c'est que très certainement le Christ, sa vie était baignée par les psaumes. C'est la prière, c'est d'abord la prière du Christ. Donc le Christ aussi a déchiffré dans les psaumes sa propre, la mission que son Père lui donnait pour notre salut. Donc c'est un livre christologique. Alors on peut décliner ça en trois dimensions. Trois dimensions. La première, j'ai noté l'incarnation de la parole dans l'écriture, mais c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, c'est le logos et c'est le Christ qui se donne dans le psautier. Et puis en fait, à vrai dire, dans absolument toute la Torah, dans tout l'Ancien Testament. Plus important, alors oui, ce qu'il appelle les sens seconds. Alors là encore, je suis épaté, c'est quand même vraiment... Alors je ne sais pas trop ce qu'il avait lu, il avait lu des choses, mais... donc c'est 58, hein, 1958, les réflexions sur les psaumes. Et c'est vrai que c'est un peu la période où dans le monde catholique, depuis une vingtaine d'années, à l'instigation de grands théologiens comme Lubach, enfin comme d'autres gens comme ça, on redécouvre, comme Danielou, on redécouvre ce qu'on avait eu tendance un peu à oublier ou à mépriser, et qui pourtant est très traditionnel dans l'exégèse de l'Écriture sainte, l'exégèse des pères, et même encore des scolastiques, c'est ce qu'on appelle l'exégèse allégorique ou typologique, ou enfin, l'exégèse spirituelle. Il y a différentes manières de désigner ça, mais c'est de dire, mais un livre de l'Ancien Testament, un verset de l'Ancien Testament, un épisode de l'Ancien Testament, il a un sens immédiat, donc ce qu'on appelle le sens littéral, mais dans la mesure où c'est Dieu lui-même qui nous parle dans l'Écriture et qui nous parle dans les événements, plus encore dans les événements que relate la Sainte Écriture, par exemple l'Exode hors d'Égypte, Dieu, il y a tellement de vérité en lui que quand il raconte une chose, il ne peut pas s'empêcher d'en raconter une autre, en fait. Et l'autre chose, c'est la chose qui viendra plus tard avec le Christ. C'est encore un petit peu du Dupont et Dupont, cette manière-là. Vous voyez que même le parallélisme synonymique, enfin, c'est le parallélisme, Dieu lui-même ne peut pas s'empêcher de parler par parallèle, mais là, cette fois, c'est un parallèle assez extraordinaire, parce qu'il fonctionne à toutes les échelles. C'est comme le psaume 69, hein, une chose que Dieu a dite, deux choses que j'ai entendues. Donc, mais il a dit une chose, oui, mais t'en as entendu que moi, j'en ai entendu deux. Ou comme dit Paul Beauchamp, il a une belle comparaison, il dit « Quand la parole de Dieu descend du ciel sur la terre, elle se dédouble. » Donc, poum, poum, voilà. Donc, parce que, mais peut-être parce qu'on est corps et âme, ça c'est un petit peu l'idée d'Origène. Donc on entend la parole d'abord dans mon corps, c'est le sens littéral ou charnel, puis dans mon âme, ça c'est le sens spirituel, mais il y a un double sens. Voilà. Second meanings, comme il dit, il dit oui, c'est parce qu'il parle anglais. Et donc les sens seconds, et le sens second, c'est le sens, le deuxième sens, le sens second, c'est le sens christologique. Et ça, c'est pour nous, je crois aussi, ce qui nous aide. Alors peut-être pas dans la prière des psaumes, parce qu'on n'a peut-être pas trop le temps dans les psaumes de se poser des questions, parce que là, faut prier avec les autres, on ne va pas arrêter d'attendre, ça me fait penser à un truc, mais dans notre prière, donc oraison, faire oraison avec les psaumes, ça se fait très très bien, et surtout que si tel psaume vous fait penser à quelque chose de l'évangile, allez voir l'évangile, enfin, c'est pour ça que c'est fait, mais tiens, ou le Christ, donc on se dit, mais peut-être que le Christ a prié ça avant de, je sais pas quoi, avant les... sa passion, je vois, mais oui, mais c'est exactement ça que l'Esprit Saint veut faire quand nous prions dans notre oraison personnelle, dans le secret de notre cœur, les psaumes. N'hésitez surtout pas à donner un sens christique à votre psaume. Et là, j'en arrive à mon petit 3, ça va développer cette histoire de sens, alors sens second ou sens typologique, ou figuratif ou symbolique, appelez-le comme vous voulez, mais encore une légitimation pour cette lecture seconde, cette lecture christique, de christologique, typologique, des psaumes, c'est que Jésus lui-même le fait. Voilà, les psaumes, par exemple, quand Jésus argumente, ça c'est avec les pharisiens, quand il polémique dans les synoptiques, avec les pharisiens au temple, les prêtres du temple, il va utiliser les psaumes, il dit « Comment le Seigneur, dit-il à mon Seigneur, siège à ma droite ?» Donc, il cite le psaume 109. Ça veut dire qu'il est en train de s'appliquer, en fait, le psaume 109 à lui-même, et il est en train de faire comprendre que le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Quand c'est-il que le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite ? C'est une question, en fait, que je vous pose. Hein. Donc, quand est-ce que le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite ? Donc d'abord, c'est qui ces deux seigneurs ? Donc c'est encore une question plus simple que la première, normalement. Hein, donc. Il y a deux seigneurs, c'est qui les deux seigneurs ? Comment... Ben voilà, alors déjà, ben bien, donc il y a le Père, le Fils, donc le premier Seigneur qui dit « siège à ma droite », c'est lequel des deux ? C'est le Père, c'est lui qui structurellement, il a son trône royal au ciel. Donc. Après, il dit à mon Seigneur, donc c'est le psalmiste qui dit, enfin c'est David en fait, hein, c'est David qui est censé avoir composé les psaumes, qui dit « le Seigneur, donc Dieu le Père dit à mon Seigneur, Dieu le Fils, siège à ma droite ». Donc là, on voit. Alors quand est-ce que le Père a dit ça au Fils ? Dans le psaume 6, effectivement. Dans la Bible, là je suis coincé. Non, mais c'est pas faux. Il y a beaucoup de sagesse dans ta réponse, mais je pensais plutôt dans la trajectoire du Christ.
À l'ascension ?
Voilà, bravo, c'est très bien. C'est très bien, hein. C'est très bien. C'est... Non, mais alors, de fait, elle... oui, donc ça, en fait, le Christ est en train de... Jésus lui-même applique ce psaume 109 à lui-même, en disant, et là, il fait comprendre que donc, en fait, il est bien plus que le fils de David. Jésus, son but dans cette polémique, c'est de faire comprendre que il est ce fameux deuxième Seigneur, donc il a un Dieu à côté de Dieu. Et ça va tellement marquer la tradition chrétienne que l'Épître aux Hébreux, donc là je me situe après le Christ, du côté de la tradition, dit ben, puisque Jésus a dit ce psaume, en fait on peut reprendre les psaumes, et un psaume que Jésus a commencé de dire sur terre, comme le psaume 109, il pourra le dire aussi, le terminer au ciel. Et cette fois, l'Épître aux Hébreux va l'appliquer. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Non pas. Alors, le psaume 110, elle le dit au chapitre 1, donc ça, très bien. On comprend que le Père a ressuscité et fait monter Jésus à sa droite en lui priant une parole de psaume. Déjà, ça donne un peu d'envergure quand nous prions les psaumes. Parce que Dieu, le Père lui-même, n'a pas honte de prier les psaumes. Mais on va l'appliquer aussi à un autre psaume que Jésus, a dit un peu plus tard, non pas au temple, mais sur la croix, c'est le psaume 22, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », donc « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus commence ce psaume sur la croix, mais il va le terminer au ciel, hein. C'est-à-dire que Dieu ressuscite le Fils par une parole de psaume, et quand le Fils, alors je confonds un peu là dans mon explication, résurrection et ascension, il faudrait peut-être faire des nuances, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, et Jésus, le ressuscité, la première parole qui cite ce qu'il va dire à son Père dans son corps ressuscité, dans son humanité, mais son corps, c'est une parole de psaume, et c'est « Je proclamerai, alors faut pas que je me trompe, c'est ça, je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée », c'est le verset 23 du psaume 22, vous savez, c'est ce passage dans le psaume 22, il y a une grande partie de souffrance, mes os fondent dans ma chair, ils se moquent de moi, enfin, et puis brusquement, sans qu'on comprenne bien pourquoi, ça change complètement, je proclamerai ton nom, ça c'est, il y a une nouvelle partie, j'annoncerai ton nom à mes frères, ils te loueront, je chanterai pour ma descendance, je sais plus quoi, enfin, donc il aura en plus... Et on comprend finalement que ce psaume était calibré pour que le début, ben, Jésus le chante sur la croix, il y a le samedi saint où plus personne ne parle, ça c'est l'entre deux parties, et Dieu, le Père, ressuscite le Fils par une parole de psaume, et le Fils, la première parole qu'il dit ressusciter, c'est une parole de psaume. J'espère que la première parole que nous dirons quand nous ressusciterons, ça sera une parole de psaume. Bon, j'ai assez causé. On s'arrête là, hein. Je pense pas qu'il y ait des questions. Il n'y a plus tellement de temps. Il y a une question ? Allez-y, s'il y a une question. Je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais sinon Maxime suppléera n'importe qui d'autre. Sur les psaumes, sur... Enfin, les psaumes, autre chose. Hein, mais... Bah non, donc du coup, on dit non ? Pas de questions alors. On dirait les. Non, mais ça va très bien. On dirait les complis. Allez, regardez, on va prier le tour. Merci, merci, merci. Achetez ce livre et lisez-le. C'est très bien, C.S. Lewis. Je suis un grand fan de C.S. Lewis. J'aime beaucoup. J'avais emprunté cette Bible, je veux la rendre, merci.
Faites-le pour suivre. Merci.